RFI, grand reportage.
It's been now 50 years since.
Cela fait maintenant 50 ans. Et je peux vous dire que chaque matin au réveil, nous avons ou bien l'estomac noué ou bien la gorge serrée à la pensée que le problème chypriote n'est toujours pas réglé. C'est épuisant. Autant que je me souvienne, cette boule au ventre, je l'ai ressentie toute ma vie.
I had this lump and I still have it.
1960, les colons britanniques plient bagage et l'île de Chypre devient officiellement indépendante. La situation devient vite instable, des heurts communautaires opposent alors les habitants d'origine grecque majoritaire à la minorité d'origine turque. En juillet 1974, un coup d'État téléguidé par Athènes pour réunir Chypre à la Grèce entraîne l'invasion des troupes turques au motif officiel de protéger la minorité turcophone. Depuis, l'île est divisée en deux, une plaie qui, du côté des chypriotes grecs, ne s'est jamais refermée. Chypre coupée en deux, les 50 ans d'un écartèlement, c'est un grand reportage de Joël Bronner.
C'est l'histoire d'une île coupée en deux. Pour la raconter, direction Nicosie. Séparée entre communautés chypriotes grecques et chypriotes turques depuis les années 60, puis formellement scindée en deux depuis 50 ans, la ville de Nicosie est aujourd'hui la dernière capitale divisée au monde. L'entaille qui la divise porte aussi le nom de ligne verte, de zone tampon des Nations Unies, voire de nekrizoni, zone morte en langue grecque. C'est ici, sur cette cicatrice non refermée, que nous avons rendez-vous avec une jeune avocate qui milite pour la réunification de l'île.
Je m'appelle Evgenia Khamilou, j'ai 25 ans, je suis chypriote et fière citoyenne européenne.
Ici, lorsqu'on commande un café en grec, la langue officielle de la République de Chypre, le serveur peut ne pas comprendre. Certains, en effet, sont chypriotes turcs. Home for Cooperation, maison de la coopération, le nom du café veut tout dire de ce rapprochement ici, entre les deux communautés de l'île divisée. L'histoire de cette division, c'est Evgenia Khamilou qui nous la résume.
Historiquement, Chypre a fait partie de l'Empire britannique, puis nous avons obtenu notre indépendance en 1960. À cette époque, la Constitution instaure un système bicommunautaire qui reconnaît à la fois les Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs. Dès les années 1960, il y a eu des affrontements entre ces deux communautés. Et puis, en 1974, il y a eu un coup d'État contre le premier président chypriote, suivi de l'invasion de la Turquie. Depuis, Chypre est occupée puisque l'armée turque occupe toujours la partie nord de l'île.
Le coup d'État d'abord. Le 15 juillet 1974, le palais présidentiel est attaqué. À la radio, les putschistes font annoncer la mort de Makarios, le premier président de Chypre. Une mort réfutée peu après, également sur les ondes, par le principal intéressé.
Je suis Makarios. Je ne suis pas mort, comme le souhaitait la junte d'Athènes et ses représentants ici. Je suis bien vivant. Le coup d'état de la junte, dont j'étais la cible, a échoué. Vive la liberté, vive le peuple chypriote grec et vive la nation.
Objectif du coup d'État, rattaché par la force Chypre à la Grèce. Le 20 juillet, cinq jours après ce coup d'État, et au nom de la défense des intérêts de la minorité turcophone, la Turquie déclenche le premier volet de l'opération militaire Attila et envahit Chypre militairement. En août, Ankara lance le deuxième volet de l'opération qui se solde par l'occupation par les Turcs de toute la partie nord-est de l'île de Chypre, 38% du territoire. Pour les habitants de ces régions, il faut fuir. Installé à Strovolos, la banlieue de Nicosie, le retraité Petros Papamichaïl se souvient.
En 1974, j'avais environ 40 ans. Aujourd'hui, j'en ai 90. À l'époque, j'occupais un emploi de fonctionnaire. C'est pour ça que j'étais le seul de ma famille à vivre à Nicosie, la capitale. J'habitais ici dans une maison avec ma femme et mes deux fils, qui étaient encore petits. Le reste de ma famille vivait dans la région de Famagouste, à l'est de Chypre. C'est de là-bas que je suis. Au moment de l'invasion turque, tout le reste de ma famille a dû fuir cette région pour s'installer au sud de l'île, dans la ville de Limassol. Tout ce que nous avions là-bas, à Famagouste, nos maisons, un verger et d'autres terrains, les Turcs nous les ont pris.
Le retraité se souvient aussi de parcelles de terrain qu'il avait achetées dans le nord, dans la région de Kyrenia, elle aussi passée sous contrôle turc. Tout ça n'est plus pour lui qu'un lointain souvenir. La guerre de 1974, d'autres l'ont vécu d'encore plus près. Direction Limassol, dans le sud de l'île. C'est là, dans une maison cossue, sur une colline qui domine la ville, que nous avons rendez-vous. La famille qui nous reçoit a été très proche de l'EOKA, un mouvement paramilitaire de l'époque, qui poursuivait comme objectif l'énosis, c'est-à-dire la réunion de Chypre avec la Grèce. Ce même objectif qui a conduit au coup d'État contre le président Makarios. Dans cette maison, Makarios est d'ailleurs toujours considéré comme un traître, un vendu à la solde des anciens colons britanniques et des Turcs, qui se seraient trop éloignés de la Grèce, perçue ici comme la mère patrie originelle. Sotiris Achilleos a 80 ans. Sur le frigo de la cuisine familiale, une photo le montre, fusil à la main, après la chasse, un tas d'oiseaux morts à ses pieds.
J'ai été le premier soldat à m'enrôler dans l'armée chypriote grecque lorsque celle-ci a été créée dans les années 60. Du fait de mon nom de famille qui commence par A, j'étais concrètement le numéro 1. J'ai d'abord servi dans la ville de Paphos, puis en 1974, j'ai été envoyé dans un camp militaire où je suis resté 20 jours. L'entraînement n'était pas terminé que nous avons dû nous rendre en urgence dans le nord de l'île, vers un village en train d'être attaqué par les airs, par la Turquie. Puis nous sommes allés dans le district de Kyrenia et depuis la zone de la plage, on voyait arriver les avions turcs qui bombardaient l'ensemble de la région.
Konstantinos Thanos, son beau-frère, de près de 10 ans son cadet, effectuait à l'époque son service militaire obligatoire. Sur le visage, il en conserve une séquelle à vie, un œil de verre.
Après le coup d'État contre le président Makarios, nous suivions les ordres de l'armée qui consistaient à nous rendre dans telle ou telle zone de l'île. Moi, j'ai été blessé dès notre première mission. Pendant environ 2 semaines, j'étais hors de ce monde, j'étais comme mort. Je me suis réveillé après l'invasion turque à l'hôpital. Il y avait alors des personnes blessées tout autour de moi. J'ai demandé ce qu'il s'était passé et on m'a dit que les Turcs étaient arrivés, qu'ils bombardaient le pays, qu'il y avait des parachutistes. Moi, j'étais juste sur le point de terminer mon service militaire, qui était une durée de 2 ans à l'époque. Le coup d'État a eu lieu 5 jours avant la fin de mon service. Et c'est à ce moment-là que j'ai été gravement blessé. J'étais caput.
Sa grande sœur, Georgia Tanou Achilleos, 82 ans, est en train d'écrire ses mémoires. Elle espère ainsi que ses petits-enfants n'oublieront pas ce qui s'est passé à Chypre à l'époque. Assise en face de son frère, elle revient sur les circonstances de sa blessure à l'œil.
À l'hôpital où mon frère avait été envoyé, il y avait beaucoup de gens, des blessés, des morts. Tous étaient entassés dans la même pièce. Sur le mur, à mon arrivée, j'ai vu un papier avec l'indication « décédé » à côté du nom de mon frère. À sa femme aussi, les médecins ont dit qu'il était mort. Je leur ai dit que je voulais le voir et que même mort, je voulais le retrouver. Le directeur que je connaissais m'a ouvert cette pièce avec des gens partout, par terre. Là, j'ai vu mon frère avec un œil en dehors de son orbite. Là, le médecin-chef constate qu'il est encore en vie. Il demande alors de vite le transférer vers un hôpital militaire, le seul où ils peuvent quelque chose pour lui. Il a été mis dans une ambulance qui a roulé au ralenti pendant 2 heures pour que sa tête ne bouge pas. Et moi, je lui tenais la tête. À l'hôpital, pendant 11 jours et 11 nuits, je suis restée à ses côtés jusqu'à ce qu'il retrouve connaissance. Je pleurais beaucoup, ce sont de très mauvais souvenirs. C'est d'ailleurs la première fois que mon frère entend cette histoire. Je ne lui avais jamais raconté.
C'est la première fois qu'il entend cette histoire.
Gravement blessé, Constantinos, le frère, sort du coma avec l'idée farfelue et confuse qu'il se trouve en Italie. Le jeune homme qui vient d'échapper à la mort grâce à l'abnégation de sa sœur n'est pourtant pas en Italie mais à Chypre, une Chypre nouvelle, à présent divisée. Au cours de l'été 74, Chypre se retrouve coupée en deux. 200 000 chypriotes grecs sont contraints de se déplacer dans le sud de l'île. 50 000 chypriotes turcs, eux, sont forcés de migrer au nord. C'est le quart de la population qui doit chercher refuge ailleurs. La scission de l'île et les combats entraînent aussi la multiplication des personnes disparues. Prisonniers, cachés, tués, le destin de ces disparus reste longtemps un mystère. Un drame familial pour Efit Tsangaridou. Elle et ses proches ont longtemps été hantés, en effet, par la disparition de son oncle.
C'est une histoire qui a marqué beaucoup ma famille. Je me souviens, mon cousin qui est né en 88, dans les années 90, il demandait au Père Noël, c'est ma tante qui nous a montré la lettre, de nous trouver l'oncle. Ça veut dire que ça pesait vraiment toute la famille, ne pas savoir à qu'est-ce qu'il est devenu. Et on pensait qu'il était vivant.
Élevée dans la nostalgie de la vie à Chypre Nord, élevée au rang de paradis perdu, l'enseignante à l'école franco-chypriote de Nicosie, elle aussi, a longtemps cru au Père Noël. Car petite fille, elle cherchait également à retrouver cet oncle.
Je me souviens qu'ils avaient des téléphones fixes qui fonctionnaient dans les années 80, d'appeler régulièrement ce numéro, en espérant qu'il est là, caché là, et qu'il répondait. Bon, jamais il a répondu. Finalement, en 2013, on a reçu un appel qu'ils ont trouvé des restes de son corps. Ils ont trouvé les genoux, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils ont trouvé, et qu'il était identifié comme personne qui est mort finalement.
Une sorte de soulagement malgré tout, quelques 40 ans plus tard, pour la famille qui peut enfin refermer ce chapitre douloureux. Retour dans la maison de la coopération. Les années ont passé. En 2004, 30 ans après la division de l'île, la République de Chypre rejoint l'Union européenne. Notre interlocutrice détaille.
En 2003-2004, les points de passage ont ouvert. C'est donc devenu possible de traverser d'un côté à l'autre et de se déplacer dans toute l'île. En parallèle, une sorte de ligne verte européenne a aussi été établie. En synthèse, de part et d'autre de cette ligne préexistante, le déplacement des gens et des biens sont autorisés, mais pas celui des capitaux. Dans les textes, l'ensemble de l'île de Chypre fait partie de l'Union européenne, mais la loi européenne ne s'applique pas dans les zones qui ne sont pas sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre.
À Nicosie, la scission de l'île est visible physiquement au quotidien. Hors de la capitale, la cicatrice n'en est pourtant pas moins obsessionnelle et douloureuse. Illustration dans le village d'Omodos, dans la partie montagneuse de l'île. Charilaos Atinodourou est à la tête de l'un des domaines viticoles qui font la réputation de la région.
La division de l'île, cette injustice faite à Chypre, c'est quelque chose que nous avons sans cesse à l'esprit. À présent, cela fait 10 ans que je ne suis pas retourné du côté occupé, mais j'y étais allé parce que ma femme est originaire de cette partie de l'île et que je voulais voir le lieu où elle avait grandi. J'y étais aussi passé 2-3 fois avant l'invasion, mais j'étais petit. Très clairement, le fait de revenir sur place et de prendre conscience de tout ce qui s'y est passé, cela a provoqué chez moi comme une douleur à l'âme.
Pour certains, la ligne verte qui sépare l'île n'est pas qu'une cicatrice. Elle est aussi le rappel d'une menace qu'ils jugent constante, celle de la Turquie. Kostas se présente d'un simple prénom. Il a vécu 40 ans en France. Depuis son retour, il est réserviste dans l'armée.
Moi, j'avais 16 ans à l'époque. Je m'apprêtais à aller en seconde quand c'est arrivé. Donc d'abord le coup d'État et ensuite l'invasion. Et donc avec mon père qui avait déjà plus de 55 ans, nous sommes allés nous enrôler comme volontaires à l'armée. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'ils ont compris que j'étais mineur et ils nous ont chassés tous les deux pour qu'on revienne à la maison. Voilà.
Kostas vient d'une famille où l'engagement dans l'armée fait partie des traditions. Ce chypriote grec se sent très proche des Grecs de Grèce qu'il voit comme un peuple frère. Même si le conflit chypriote semble aujourd'hui gelé, il en est persuadé, la menace reste réelle et les combats pourraient reprendre à tout moment. Car à ses yeux, les autorités d'Ankara, nostalgiques de l'Empire ottoman, ne rêvent que d'expansion.
Et maintenant, je considère, tout comme en 1914, que j'ai autant de responsabilités qu'en 1974 pour participer, aider à défendre mon pays s'il arrive quelque chose. La seule solution du problème, c'est que les Chypriotes turcs se débarrassent de la Turquie comme mentor, comme tuteur, comme soi-disant protecteur. Parce que la Turquie, elle n'est pas là pour les protéger, eux. La Turquie, elle est là pour reprendre Chypre tout entier.
La République de Chypre peut se montrer optimiste sur une résolution prochaine du conflit et la fin de la division. En 2004, juste avant l'entrée dans l'UE, les Chypriotes grecs votent contre le plan de réunification de l'époque, le plan Annan, jugé déséquilibré. Celui-ci proposait alors une fédération de deux États séparés. Pour certains, c'est une occasion historique manquée. Dernière tentative de négociation en date, la conférence de Crans-Montana en Suisse en 2017 s'est soldée par un échec. Ex-ministre des Affaires étrangères, Ioannis Kasoulides résume l'actuelle position des dirigeants chypriotes grecs d'un côté et chypriotes turcs de l'autre.
Nous sommes d'accord à l'égalité politique. Maintenant, ce qui nous sépare les deux leaderships, les leaderships de la communauté chypriote turque veulent une souveraineté séparée et la présence de l'armée turque à Chypre. Mais pour nous, la solution, c'est le départ de l'armée turque, le départ de la Turquie de l'île. Et ceci, je trouve, beaucoup de supporters de la part des Chypriotes turcs.
Le départ des forces turques ne paraît pourtant pas d'actualité. Ankara a tendance, au contraire, à encourager la migration de Turcs à Chypre pour rééquilibrer la démographie qui penche nettement sur l'île en faveur des Chypriotes grecs. Ces derniers, dont leur parti d'île est truffé de drapeaux grecs, tentent à considérer les migrants turcs d'après 1974 comme des occupants et des colons. Architecte et urbaniste, Marina Kyriakou explique la difficulté pour elle de se sentir fière d'une identité chypriote, largement façonnée par le nationalisme de ses voisins.
Je trouve que c'est difficile d'être fière parce que on sent qu'il faut nous positionner par rapport aux autres pays. De mon côté, c'est par rapport à la Grèce. De l'autre côté, c'est par rapport à la Turquie. Donc, il y a un point de référence et on essaye d'expliquer les gens comment on est différent de ça.
Aujourd'hui, 50 ans après la division de l'île, qu'est-ce que l'identité chypriote contemporaine, sinon cet écartèlement entre Grèce et Turquie ? Politiquement, seul Ankara reconnaît le gouvernement du nord de Chypre. Ni pour les chypriotes grecs, ni pour la communauté internationale, il ne s'agit d'un État à part entière. Chypre Nord est donc une zone occupée que l'avocate Evgenia Chamilou définit, à l'aide du vocabulaire diplomatique européen, une région où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.
Ma mère a été déplacée en 1974. Elle est originaire de la région de Kyrenia, qui n'est pas sous contrôle effectif de la République de Chypre. Sa famille a tout perdu, même sa maison. Je connais des gens qui n'ont jamais pu rencontrer leurs grands-parents, voire même leurs parents, et qui s'investissent pour la paix. Que ces gens-là, malgré tout ce qu'ils ont perdu, soient prêts à œuvrer pour la paix, c'est un message extrêmement fort. Au niveau de la population, de mon point de vue, je ressens une envie de paix et d'unité. Mais cette volonté doit maintenant se traduire au niveau politique.
Quittons à présent le café situé dans la zone militarisée des Nations Unies. À 15 minutes à pied, trône le musée archéologique de Nicosie, dit musée de Chypre. À l'intérieur, de nombreuses statues représentent Aphrodite, déesse de l'amour, qui selon certaines légendes serait née de l'écume au large de cette île de Chypre. De l'un de ces marbres, ironie du sort, il ne reste que la partie inférieure du corps, des pieds jusqu'au nombril. Une Aphrodite durablement coupée en deux, à l'image de Chypre, son île.
Chypre coupé en deux, les 50 ans d'un écartèlement, c'était un grand reportage de Joël Bronner, réalisation Eva Piedel. Σαν να βρίσκεις μαθιά, σαν και στο ρολόι και κανεί.